partir du lundi 2 septembre, la grille des programmes de Radio Okapi connaîtra quelques ajustements les après-midi. Découverte et rallongée d'une heure, l'antenne soir débute une heure plus tôt. Retrouvez les thématiques femmes, jeunes, enfants, santé et sur la vie quotidienne. Les infos culturelles, l'extrait zigzag, la chronique totale musique, les réponses à vos questions et de la musique entre 13h et 16h, heure de Kinshasa. La chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi, les infos du site web intègrent désormais l'antenne soir. Radio Okapi, encore plus près de vous.
Bien. Nous parlons à présent de la promiscuité dans Okapi Service. Promiscuité de logement. Vous savez, les conditions de logement demeurent précaires dans bon nombre des quartiers populaires de la RDC. Les familles sont mal logées et cela favorise les phénomènes de promiscuité. Dans une maison ou une parcelle, le nombre d'occupants dépasse de loin la capacité d'accueil. Par exemple, on pouvait trouver par exemple plus de 4 personnes qui partagent une chambre, une toute petite chambre, mal aéré, et d'autres dorment même le sol au salon. On les appelle les Salomons. Bon, alors, quelles sont les raisons, les causes et conséquences de la promiscuité de logement? Eh bien, on en parle dans quelques instants avec notre invité Adélar Kouanzaka. Il est sociologue. Vous avez des témoignages, vous connaissez des cas de promiscuité quelque part ou dans votre milieu. N'hésitez pas, composez les 081-890-6094 pour nous partager votre expérience ou poser vos questions à l'invité. Adélar Kouanzaka, sociologue, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment définissez-vous la promiscuité?
La promiscuité, d'ailleurs, vous avez, dans le propos que vous avez tenu tout à l'heure, vous avez effleuré la définition.
Oui.
C'est l'occupation, c'est la suroccupation. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est la suroccupation de l'espace. Vous avez parlé de la... d'une chambre, peut-être de 2 mètres sur 3, occupée par 4 ou 5 personnes.
Oui.
Donc, c'est la suroccupation dans le cas précis. Et cette suroccupation de l'espace est un phénomène qu'on observe particulièrement dans les villes congolaises. Donc, c'est un phénomène essentiellement urbain, pour plusieurs raisons. Ce phénomène date pour l'essentiel de l'époque coloniale. Et s'est aggravé après l'indépendance du pays, notamment à cause d'une politique de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire mal exécutée ou tout simplement inexistante. Alors ça, c'est une des causes, c'est même la cause principale. À cela, il faut ajouter l'exode rural qui a suivi cette accession du pays à l'indépendance. Avec la suppression du permis de mutation. Vous savez que les Belges avaient instauré ces permis de mutation pour contrôler le déplacement des populations.
Oui.
Donc, ils devaient savoir qui va où, et pour combien de temps, qui vient d'où et pour combien de temps. C'est ainsi qu'ils surveillaient, en fait, le mouvement des populations. Et cette gestion de la population était donc mise à jour. Chaque jour, le bourgmestre ou le chef du territoire devait savoir qui est sorti de son pays, de son entité,
oui,
pour aller où et pour combien de temps, qui est entré pour aller pourquoi et pour combien de temps. Donc, ce permis de mutation, malheureusement, après l'indépendance, on a cru que l'indépendance était la liberté totale, la licence en fait, et on l'a supprimée avec les conséquences que nous savons. Donc il y a aussi à retenir sous ce même registre le pronatalisme congolais qui veut que chaque famille ait autant d'enfants qu'il y a des étoiles dans le ciel. En fait, le genre, avec toutes les difficultés qu'on connaît du point de vue de l'assurance, du point de vue... de la prise en charge des personnes âgées, estime que avoir beaucoup d'enfants, c'est en quelque sorte aussi assurer ce vieux jour, c'est s'assurer contre tout risque. Et enfin, il y a une cause récente,
oui,
oui, enfin, pas récente, mais qui a existé après l'indépendance, mais qui s'est aggravée ces dernières années.
Laquelle?
C'est le trouble sociopolitique, avec son cortège des migrations internes des populations à la recherche des endroits de sécurité, en particulier les villes. Ce qui fait que les villes sont surpeuplées parce que les gens qui fouillent les troubles sociopolitiques, surtout en milieu rural, se rendent dans des villes qu'ils considèrent comme des endroits plus sécurisés. Donc voilà un peu ramasser quelques-unes des causes de cette promiscuité, de cette suroccupation de l'espace. Mais il y en a tant d'autres. Hein. Je parlais que le plus important.
Voilà, ce sont là les causes de la promiscuité. Donc, il y a beaucoup de gens partagent un espace réduit. Il y a même un auditeur qui nous a parlé, donné l'exemple des camps, dans les camps militaires, où vous trouvez dans une maison deux ménages, deux familles, trois familles qui se partagent une maison. Et voilà, ils vivent dans des conditions déplorables.
Oui, justement. Parce que, justement, il n'y a pas une politique d'urbanisme. Il n'y a pas une politique d'urbanisme. De sorte que même les gens se construisent des résidences de fortune sur tous ces quartiers populaires-là. Les gens sont en même temps, sont eux-mêmes maçons, ils sont charpentiers, ils sont ouvriers, etc. Et ces quartiers d'occupation spontanée ont pris de l'ampleur. Ce sont des quartiers d'autoconstruction, parfois sans permis de construction. C'est tout ça les conséquences de la liberté, d'une liberté mal comprise et mal assumée. Et dans ce quartier-là d'autoconstruction, vous avez, comme vous l'avez épinglé au début, des familles qui on a de logis, de chambres peut-être, pour une famille de 8 personnes, voire même 12 personnes. Ce qui fait que les gens, les filles et les garçons, se partagent. Souvent, d'ailleurs, ces enfants dorment au salon. Et ce sont les grands-enfants, ceux qui sont nés avant, qui ont la chance de dormir dans des chambres. Et les conséquences d'une telle promiscuité sont nombreuses. Et nous allons peut-être en parler tout à l'heure.
Oui, quelles sont ces conséquences de la promiscuité? Qu'est-ce que cela entraîne comme effet?
Oui, comme je disais, elles sont nombreuses. Elles vont des pathologies biologiques ou physiques aux maladies du corps social. Et parmi les pathologies sociales récurrentes, nous allons nous limiter peut-être à celles qui sont récurrentes, nous pouvons épingler ici l'inceste. L'inceste est monnaie courante dans des familles où fils et garçons passent la nuit ensemble à cause de l'espace qui n'existe pas. Donc, l'inceste, on a eu à déplorer des cas d'inceste dans les villes et particulièrement dans le quartier populaire.
Oui.
Il y a également la fugue des enfants, l'histoire familiale, à la recherche de consolations, en tout cas douteuses, n'est-ce pas? Les enfants qui fuient la maison parce qu'ils ne peuvent pas supporter de dormir toujours au salon. Et souvent, ces gens qui dorment au salon dorment tard quand tout le monde a fini de suivre la télévision, etc. Donc, ils dorment tard, ils doivent se réveiller très tôt avec d'autres conséquences sur le plan du rendement, notamment pour les enfants qui vont à l'école.
Oui.
Et la somnolence et le rendement scolaire est souvent médiocre. Il y a, consécutif à cela, le phénomène enfant des rues. N'est-ce pas? Ces enfants partent dans la rue, les enfants qui fuguent partent dans la rue à la recherche, comme je disais, de consommation douteuse. Et il y a aussi un élément important, une pathologie sociale importante, le manque d'intimité, aussi bien pour les parents que pour les enfants. Il n'y a pas vraiment d'intimité, notamment pour les parents. Les parents qui sont obligés de vivre dans l'intimité, dans leur intimité conjugale,
cette
intimité est souvent bafouée. Et enfin, disons, pour cette énumération qui n'est pas définitive, vous avez l'affaiblissement ou carrément le relâchement de l'autorité parentale. Quand les parents ne savent pas loger leurs enfants décemment, et quand les enfants passent la nuit à même le sol et entassés, donc il y a affaiblissement de l'autorité parentale. Donc, les parents sont plus capables, sont en tout cas se sentent amoindrie du point de vue de l'autorité. Donc ça, c'est aussi, c'est quelques-unes des conséquences qui découlent de la promiscuité dans le logement.
Bien, promiscuité des logements, cause et conséquences. Nous avons deux auditeurs en ligne, Ogui Bendelo de Kikuit et Joseph Désiré de Kalemi. Ogui, bonjour.
Sachamment, c'est lui notre invité, M. Adelar Kwanzaka. Merci de m'avoir accordé la parole, M. Jédou.
Oui, on vous écoute.
Oui, le sujet est très intéressant. Vous parlez de promiscuité du logement, soit sur occupation. Merci. L'invité a bien parlé et je lui ai bien suivi. Il a parlé qu'avant les dépendances, il y avait un système, je ne sais pas, de recensement ou quoi, de savoir qui va où et pour faire combien de temps. Mais aujourd'hui, monsieur, aujourd'hui, cela est un sujet vraiment très alarmant. Et pourtant, la guerre dans notre pays a occupé qu'un seul coin du pays à l'est, mais c'est comme si toute la République est occupée par la guerre. Vous allez remarquer, même chez nous, ici à Kikuit, dans ma ville où je reste, vous avez dit jeudi qu'un auditeur a parlé qu'il y avait trois familles dans une même maison, mais moi, je vois plus de quatre ou cinq familles dans une seule maison. Une seule toilette, vraiment, même le système d'assurance, on n'en tient même pas compte. C'est pourquoi j'ai voulu poser la question à notre
Et pourquoi 3-4 familles dans une même maison?
Oui, moi, j'ai dit que vous avez dit qu'il y a un auditeur qui vous a parlé de 3 ou 4 familles dans une même maison, mais moi, j'ai vu même plus de 5 familles dans une même maison.
Ok.
Voilà, et la question est de savoir que notre invité puisse me préciser, parce qu'il a parlé des conséquences telles qu'un cesse et pour ne citer que cela. Alors qu'il puisse me préciser combien de membres de famille doit occuper une maison. Donc, dans une même maison, le maximum ou le minimum des membres des gens qui doivent loger dans cette maison-là doit être de combien? Ce que j'ai voulu savoir au fait de notre invité.
Merci. Joseph, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, j'ai dit.
On vous écoute, Joseph.
Merci beaucoup pour la parole. Et je voulais intervenir sous trois angles. Je crois que dans un premier temps, les causes sont vraiment connues. Comme Roth disait, il y a le problème d'exode rural, il y a le cas de camps militaires où il y a une forte promiscuité.
Oui.
Il y a aussi le cas de l'insécurité. Il y a certaines personnes qui sont dans des villes qui préfèrent peut-être quitter de milieu de la cité pour aller se retrouver par exemple à Kinshasa, à la Gombe, où il y a des lits superposés dans une chambre, ça crée de promiscuité. C'est le cas de gens qui veulent bien quitter la cité vers la ville. Nous avons aussi le cas de milieux frontaliers au niveau des frontières. Par exemple, si vous allez maintenant à Katsumbalesa,
oui,
vous allez à Lufutoto, vous allez un peu partout là où il y a nous sommes entourés par plusieurs pays, là où il y a des frontières un peu partout, vous allez vous rendre compte qu'il y a une forte promiscuité. Nous parlons aussi maintenant de conséquences, ça vous vient magma. La première de conséquences, nous avons l'inceste. Nous avons aussi le cas de l'homosexualité aussi a commencé à partir de là, parce que vous comprenez qu'il y a des gens qui des garçons, des enfants qui se confinent ou des filles qui vivent qui sont sur un lit à 3-4, le fait de se coincer, d'être toujours ensemble sans se rendre compte, les enfants peuvent commencer à s'embrasser et voilà le début de l'homosexualité comme ça à cause de la
promiscuité.
Nous avons aussi la perte, les enfants commencent à fuir aller habiter chez les amis, c'est-à-dire qu'une fille de 14 ans qui trouve bien d'aller chez le voisin, et se trouvant chez le voisin, il trouve un autre, soit chez le voisin, un autre garçon qui fait facilement l'engrosser parce que il n'y a pas moyen de vivre, il trouve peut-être mieux d'aller rester chez autrui. Maintenant, pour le remède, moi je crois qu'il fallait que l'État ait quand même une bonne politique en ce qui concerne maintenant le nouveau lotissement et chercher à faire des constructions. Vous voyez maintenant ce qui se passe en Chine, tout ce qui partout, c'est le pays le plus, par exemple, peuplé. Mais si vous voyez maintenant la politique qu'ils ont mis maintenant pour pouvoir construire,
oui,
pour pouvoir urbaniser, pour pouvoir chercher des espaces vides, c'est de cette façon-là que l'État peut chercher à trouver des solutions par rapport à la forte promiscuité. Nous avons aussi la responsabilité, comme aussi, pas seulement l'État, aussi les parents. Il y a certains parents qui ont construit depuis 1940, qui ont occupé les maisons de l'État, qu'on appelle, je ne sais pas, les maisons construites pour deux pièces, et dont les enfants fainéants qui ne font rien, qui restent, veulent bien continuer à rester dans des boueries,
oui,
chez leurs parents, dont le grand-père est là-bas, le père est là, les petits-fils, les arrières sont toujours là-bas. Voilà la promiscuité et les fainéantisme, toujours de jeunes gens qui ne veulent pas s'épanouir, crée aussi la forte promiscuité, voilà, ou l'intervention de Joseph Désiré.
Alors, merci Joseph Désiré, qui nous dit qu'il y a aussi des jeunes gens fainéants qui favorisent la promiscuité. Merci. Esther Oubedi, vous êtes à Magui, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, bonjour à tous.
Quelle est votre question?
Voilà, je pense que ma question ressemble à celle d'un auditeur qui m'a précédé, mais ça m'empêche quand même de la répéter. C'était juste pour ne pas tomber dans des cas de promiscuité comme notre invité vient de dire là, qui a des conséquences vraiment évidentes. Alors, cela peut être hormis les visiteurs qui peuvent arriver à la maison. Est-ce qu'il y a un nombre qu'on peut arriver à limiter de personnes qui peuvent habiter dans une maison à capacité moyenne? Voilà ma question.
Merci Esther. Adela Kondaka.
Oui, merci beaucoup. En fait, il n'y a qu'une question qui a été posée par les deux auditeurs.
Oui.
Qui est plus de mag, je crois.
Voilà.
Combien de personnes faut-il dans une maison? Je crois que cette question, je ne peux pas parler d'emblée comme ça du nombre de personnes.
Mmh.
Et dans une maison, il faut savoir. Comme la dernière intervenante a dit, elle a parlé d'une maison moyenne. Je crois que dans une maison de type, disons, moyen, il faut d'abord, je parle plutôt en termes de pièces,
oui.
De chambres. Il y a le salon, la salle de séjour, là où les gens doivent rester, ils ne doivent pas dormir là, pour le séjour, là que la famille se réunit, là que... on reçoit des visiteurs, etc. Et il y a la chambre des parents, bien sûr. Et en principe, il doit y avoir une chambre pour chaque enfant. Si vous avez quatre enfants,
oui.
Il doit avoir quatre chambres. Chaque enfant doit avoir sa chambre. Mais il y a les systèmes maintenant que j'observe de la répartition des chambres selon le sexe des enfants.
Chambre des garçons et chambre des filles.
Oui, chambre des garçons, chambre des filles. Et ça, c'est... Si vous avez cinq filles, donc elles doivent dormir dans une même chambre. Et vous avez cinq garçons, comme j'ai parlé de pronatalisme, et autant d'enfants qu'il y a des étoiles dans le ciel. Vous avez cinq garçons, cinq filles, tous doivent dormir dans une chambre. Je crois que, en principe, vous pouvez peut-être avoir une chambre pour deux enfants du même sexe. Au moins avec le système de lit à étage. Mais s'il y a cinq personnes qui doivent dormir dans une même chambre, quatre déjà. C'est la promiscuité et cela ne favorise pas le bien-être et notamment la protection de la santé.
Mais généralement, professeur, ces familles qui vivent dans la promiscuité n'ont pas des moyens. C'est souvent dans les quartiers populaires, démunis, où les gens vivent dans des conditions précaires et les toilettes, les douches, c'est, tout cela laisse à désirer.
Oui, il y a la promiscuité, bien sûr, dans le logement en tant que pièce d'habitation. Mais il y a aussi la promiscuité dont un des auditeurs a parlé dans l'espace occupé. Vous avez des parcelles ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani. Vous avez des concessions, vous avez 5, 6, 7, voire même 8 ménages. Et dans chaque ménage-là, dans chaque famille, il y a peut-être 7 ou 8 personnes. Si vous faites la sommation, vous allez voir qu'il y a des parcelles ou des concessions. Parcelles d'ailleurs, ces concessions-là, c'est... Ça peut donner une mauvaise image.
Oui.
Vous avez peut-être 30 ou 40 personnes dans la même concession avec une seule ou deux toilettes, avec une seule ou deux douches. Donc, cela ne favorise pas vraiment le bien-être individuel et collectif. L'auditeur de Kinshasa a parlé de remèdes. Je crois que peut-être nous allons y...
Oui, on va y arriver tout à l'heure, le temps d'accueillir encore deux autres auditeurs, Valentin Kabamba de Kolwezi et Rachel Ndjunju, qui nous appelle depuis Siro. Valentin, bonjour.
Bonjour, monsieur, je vous écoute.
Nous parlons de la promiscuité de logement, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, oui, de toutes les façons, je crois que les gens peuvent se faire beaucoup des idées, mais néanmoins, les grands problèmes réside au niveau des responsables. Donc là, je vois les pères et la mère. C'est que si les gens ne veulent pas planifier leur naissance, cette histoire va toujours avoir des répercussions. parce que la promiscuité, c'est un résultat de la pauvreté. Alors, étant pauvre, on doit quand même planifier les naissances afin d'éviter ce système de promiscuité qui peut créer les maladies, qui peut aussi bloquer quelque part la croissance avec toutes les conséquences possibles. Alors, moi, je pense que les gens peuvent néanmoins comprendre que le problème est à ce niveau-là. De l'autre côté aussi, pour le gouvernement, nous voyons par exemple dans des camps militaires comme ici à Kolwezi. Non, non, je vous dis, si vous passez là au camp que nous appelons Kijé, oui, vous trouvez quatre familles. Je vous dis, ce sont des faits et c'est un peu du passé. Donc vous trouvez quatre familles dans une seule maison, ayant un seul salon. Donc vous trouvez tout ça et personne ne saura même comment ranger cette maison, personne ne saura comment ranger des toilettes parce que celui-ci va regarder celui-ci, l'autre aussi regarde l'autre. Alors cette responsabilité aussi à ce niveau-là, les autres essaient de copier aussi les faillances de l'État et ça devient compliqué partout en République démocratique du Congo pour cette affaire de promiscuité. Ça fait vraiment la honte.
Merci Valentin. Rachel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Allô, bonjour.
On vous écoute.
Oui, j'ai deux petites questions posées à l'invité, mais avant j'ai un témoignage, donc moi j'ai vécu. Il y a une fois que j'étais partie en vacances à Beni chez mon oncle, et il y avait un voisin là qui venait, donc il faisait venir chaque semaine ces gens de ces villages, les gens de ces villages venaient, et chez lui à la maison, donc il n'y avait plus d'espace, et lui, il pouvait loger tous ces gens-là. Il est venu demander à mon oncle s'il peut permettre, parce que chez nous à la maison, il y avait des annexes qui étaient vides dehors, il peut permettre que ces gens-là puissent se loger chez nous, et mon oncle, il était d'accord, il avait accepté, les gens, ils ont venu s'alloger chez nous à la maison, et après quelques semaines, on remarquait qu'il y avait deux personnes qui rentraient au village. On ne sait pas si qu'est-ce que ces deux personnes allaient dire au village. Il y a eu encore l'augmentation de gens qui venaient s'éloger seulement chez nous à la maison. Et juste parce qu'ils avaient de difficultés, comment passer la nuit dans la maison, parce qu'il y avait déjà plus déjà les femmes et tout ça. Et mon oncle a pu décider d'accepter de leur donner encore une autre chambre, une chambre dans la maison, pour permettre à ces gens-là de passer bien la nuit. Mais il y avait encore des gens qui s'augmentaient seulement.
Rachel, et ces gens-là venaient du village, pourquoi? Ils venaient du village pour faire quoi?
Bon, on ne sait pas si juste ces gens-là venaient chercher quoi. Il y avait toujours des gens qui venaient chez lui, là, donc sa famille, tout ça, ses tantes, tout ça, déjà. Beaucoup de gens venaient. Bon, je ne sais pas si parce qu'on avait accepté de leur donner notre maison, c'est pourquoi ils avaient accepté de faire venir encore toute sa famille sur place.
Oui.
Et après, moi, il s'était prévu que je rentre parce qu'il fallait que je rentre pour commencer les cours. Bon. Je n'avais pas bien suivi la suite. J'aimerais demander maintenant à l'invité. Mais là, qu'est-ce que mon oncle peut faire? Est-ce qu'il faut qu'il aille dire à ce monsieur-là que non, il n'y a plus moyen qu'il accepte de loger tous ces gens-là chez lui à la maison, quoi. Et la deuxième question, j'aimerais savoir, concernant la situation qui se passe dans notre pays, il y a des guerres partout, par-ci, par-là, tout ça. Et qu'il arrivait qu'il y ait une guerre se déclencher là où votre famille s'est trouvée et votre famille vient, qu'ils ont fui la guerre pour venir se réfugier chez vous à la maison et que votre maison, c'est insuffisant de vous loger tous avec tout ce que l'invité veut d'énumérer, les incestes et tout ça. Vous avez peur que ça puisse arriver. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire?
Merci Rachel. Jérémy Mido, vous êtes à Bandonouville. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, ma première préoccupation, c'est celle-ci. Je ne sais pas si c'est pas une préoccupation, mais c'est une question. Je ne sais pas, la radio Okapi ne peut pas nous mettre en contact avec tous les auditeurs ou les amis qui interviennent par-ci, par-là. Parce que quand je dis ceci, pourquoi, c'est la radio qui nous fait vraiment du bien dans le Congo. Parce qu'il y a d'autres amis qui appellent des Kikwiti, des par-ci, par-là. On n'a pas moyen de les contacter. Mais vous avez tous nos numéros. Donc, il n'y a pas moyen de nous mettre en contact puisque nous pouvons échanger et chercher des belles idées qu'on peut améliorer dans l'avenir.
Merci.
C'est ma préoccupation. Mais la deuxième type de préoccupation, c'est celle, si je peux dire, dans les normes familiales ou dans les normes urbanistiques, dans une famille,
oui,
on peut trouver combien de personnes dans une famille. Parce que quand j'ai dit ceci, pourquoi? Lorsqu'on parle de logements, là, par-ci, par-là, les autres garçons, bien les autres familles, ou les autres types, fait le système de Salomon, là, par-ci, par-là, je ne sais pas si je parle à cela, si vous pensez même au Mikiri, là, le Mputu, là, quoi. Donc, il n'y a pas de ces systèmes que nous vivons ici au Congo. Je ne sais pas, dans une famille ou dans une maison, on peut avoir combien de personnes pour que ça constitue, je peux dire, un effectif total de la famille. Je ne sais pas si l'invité peut me répondre à ça.
Merci, Jerry. Adela Kwandaka.
Oui, merci. Je commence par cette dernière préoccupation-là. Combien de familles, combien de personnes dans une maison? Ben, j'ai déjà dit que, idéalement, il faut une chambre pour chaque personne, à part chaque enfant, à part la chambre des parents. Mais compte tenu des difficultés qui sont les nôtres, on peut accepter qu'il y ait deux personnes avec le système de lit à étage dans une chambre, deux personnes même sexe. Donc, c'est ce que je veux dire. Si vous avez 10 enfants, vous pouvez vous-même voir combien vous pouvez avoir. D'ailleurs, il ne faut pas avoir des enfants et dire non, Dieu va s'occuper d'eux, comme j'entends souvent ici. Vous avez l'auditeur qui a soulevé la question de planification familiale. J'ai dit au départ que dans notre mentalité pronataliste, ici, il faut avoir beaucoup d'enfants. Et il y a un proverbe qui dit qu'il faut avoir autant d'enfants qu'il y a des étoiles dans le ciel. Et avec ça, oui. Il n'y a pas moyen de pourvoir, n'est-ce pas, aux besoins de tous les enfants. Il faut être réaliste, avoir le nombre d'enfants qui convient que la famille est capable de nourrir, de loger, de scolariser, etc.
Donc, voilà. Il y a également Rachel qui nous parle de son oncle qui a hébergé les invités de son voisin. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, il peut faire pour, les faire partir?
C'est une question de très délicate. Hein. Il y a d'une part la solidarité africaine, mais d'autre part, hein, le fait que lui-même doit être dans l'inquiétude aussi.
Oui.
Je ne trouve pas que ça, c'est encourager un peu le mal, parce que ces gens-là, qui quittent le village pour venir à Siro, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire. S'ils viennent pour travailler, ben, peut-être ils peuvent les loger pendant un temps, puis leur laisser la possibilité de se débrouiller, d'aller voler de leurs propres ailes.
Oui.
Celui qui le fait venir, il doit sûrement savoir pourquoi il le fait venir. Il ne peut pas, n'est-ce pas, déverser le trop plein de ses visiteurs chez son voisin.
Voilà.
Alors, il y a également la question des troubles sociopolitiques et qui occasionnent, comme je l'ai dit, des déplacements massifs de population. Bon, ces gens-là, bien sûr, ils peuvent être logés momentanément chez des membres de leur famille, mais l'État doit s'occuper d'eux. Je vois à la télévision des camps de gens qui se déplacent et je crois qu'on peut leur proposer une solution provisoire de logement dans des camps. Mais après, il faut faire tout pour arrêter la guerre, pour que ces gens-là rentrent
chez eux.
Ouais.
Alphonse Boudril nous appelle depuis Ngbokolo, en province orientale. Bonjour Alphonse.
Oui, bonjour Jérémy, bonjour l'invité, bonjour tous les auditeurs qui nous appellent maintenant. C'est Alphonse. J'ai d'abord un témoignage et puis deux questions.
Rapidement.
Merci, oui. J'ai vu à Arou ici des familles qui vivent dans une case, par exemple. Il y a les enfants, les bêtes, donc les ustensiles, tout dans la même case. Bon, ça peut être causé d'une part, par exemple, par l'insécurité, d'autre part, par des cas de vol à répétition. Deux questions. La première question est celle-ci. Donc, pour un couple qui reste dans une case et qui reçoit un visiteur, et le visiteur décide de payer une semaine ou un mois. Alors, ce couple-là a deux ou trois enfants. Maintenant, la question est de savoir comment ce couple-là peut organiser sa vie conjugale. Donc, deuxième question, c'est que il y a des églises qui organisent, par exemple, des veillées. Et ça peut être organisé chez quelqu'un, chez une personne, une telle personne. Donc, on est là, homme et femme, jeune garçon, jeune fille, on reste ensemble toute la nuit. Est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme une promiscuité?
Bien, merci Alphonse. Adela Kondekan.
La dernière partie de la question concerne les veillées de prière. Je n'ai pas bien suivi.
Oui, il parle de certaines églises qui organisent des veillées de prière où on retrouve des hommes et des femmes ensemble. Il veut savoir si on peut parler aussi de la promiscuité dans ces cas-là.
Bon, je ne sais pas ce qui se passe dans ce veillé de prière-là. Je ne sais pas comment l'espace est occupé. Je ne sais pas dans quelles conditions ils vivent. S'il y a suroccupation de l'espace, s'il y a mélange des hommes et des femmes sans discrimination, on peut, oui, parler de la promiscuité dans ces cas-là. Mais comme je ne sais pas encore comment ça se passe dans ce groupe de prière-là, dans ce veillé de prière, je ne sais pas me prononcer de façon claire.
Alors, il parle aussi d'un couple qui reçoit un invité à la maison, un couple qui a 2-3 enfants, et puis un visiteur arrive. Comment organiser sa vie conjugale avec la présence d'un visiteur?
Le visiteur... il y a un phénomène ici qui est déploré. Hein. Dans certains pays, là, les enfants même portent plainte. Vous recevez un visiteur, par exemple, dans le pays européen, vous délogez l'enfant, vous mettez l'enfant au salon, mais il peut porter plainte contre vous. Parce que là, c'est la maltraitance de l'enfant. Le visiteur, là, bon, vous, c'est assez compliqué. Peut-être vous pouvez le loger provisoirement à votre salon, le temps qu'il prenne le... Il faut que le visiteur aussi apprenne à prévenir quand il vient. Vous pouvez le loger dans votre salon pendant un moment, ou bien dans... disons, dans un hôtel, pourquoi pas, à côté.
Oui.
Le visiteur, on ne peut pas, ne peut pas. Nous avons aussi cette mentalité d'aller rendre visite de façon intempestive, sans prévenir, etc. Donc, c'est vraiment le sous-développement, c'est même la pauvreté mentale. Vous allez chez des gens, vous ne les avez pas prévenus. C'est des antivaleurs, c'est ça contre lesquelles il faut lutter, des antivaleurs... consécutive, n'est-ce pas, à la pauvreté qui nous caractérise.
Et j'ai suivi un autre auditeur qui est revenu sur la promiscuité dans les camps militaires. Il semble que c'est très grave dans les camps militaires. Quelle est la solution qu'on peut envisager à Delar Kwanteka?
Il faut désengroger les camps militaires. Il faut, je crois, dans ce cas-là, il faut instaurer le système. Il faut deux types de militaires. Hein. Il y a le service civil, c'est-à-dire de gens qui passent tous les 2 ans, il faut qui accomplissent leur service militaire et qui partent. Et il faut, à côté de cela, une armée professionnelle où on pourra loger dignement, d'ailleurs en dehors de villes. Les effectifs de l'armée ou des militaires augmentent, il faut aussi qu'on construise. Il faut construire, il faut avoir un esprit prospectif. Ce qui est vrai pour les militaires, l'est pour les écoles, etc. Il faut construire des logements sociaux, il faut construire de nouveaux camps militaires, il faut avoir un esprit d'anticipation, un esprit de prospective. Savoir, par exemple, que d'ici telle année, d'ici 50 ans, nous aurons autant d'effectifs dans l'armée. Il faut précéder, n'est-ce pas, il faut prévoir l'avenir, construire au préalable. Des camps qui vont accueillir le nouveau militaire. Et il faut qu'il y ait 2 types de camps pour les militaires professionnels et pour ce que je peux appeler les gens qui accomplissent leur service militaire de 2 ans. Donc il faut que l'État congolais réfléchisse sérieusement sur cet aspect pour désengorger les camps militaires. Alors, comme il s'agit de pistes de solutions, il faut aussi la construction des
logements sociaux.
Les Belges, vous savez, ont construit des logements sociaux. Vous avez beaucoup de camps pour les travailleurs, par exemple, les CMCSA. Vous avez des logements du Texas-Africa, vous allez à Lubumbashi, vous allez voir des camps qu'on appelle les camps de Gécamine.
Il y a aussi les maisons de l'ONL, on parlait à un certain moment.
Voilà, les maisons de l'ONL. Et puis, ouais. Si vous allez à Sangali, vous avez le logement de PELZ, devenu aujourd'hui PELZ. Donc, il faut des logements sociaux du genre de ce que la colonisation avait laissé et qui ont politique qui a été poursuivie quelque peu pendant la Première République et la Deuxième République, avec des cités comme la cité Salongo, qui est une cité particulière, qui était dédiée, je crois, aux joueurs de football, après avoir gagné la coupe africaine de football. Vous avez la cité verte, vous avez la cité qu'on appelle membre, etc. Donc il faut que l'État pense à la construction de logements sociaux et accorder aussi des crédits aux travailleurs des entreprises, comme ce qui se fait dans d'autres pays. Et nous suivons sur certaines chaînes, ici, etc., des constructions, des maisons, éparpillées, etc. Mais le montant de ces maisons-là, de ces appartements, même pour la location, etc., mais c'est le prix ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Donc, il faut la construction de logements sociaux.
Oui.
Il faut, sans cela, il n'y aura pas de solution en rapport avec le logement. Et l'État congolais, donc, doit se ressaisir pour guérir cette fracture sociale. Une fracture sociale qui gangrène la société, qui risque d'avoir des conséquences imprévisibles à long terme. Donc, déjà, d'ailleurs, vous avez toutes les conséquences que j'ai épinglées au début. Le phénomène Kuluna qu'on déplore peut avoir, certainement, pour origine aussi le logement. Les enfants qui n'ont pas de logement chez eux, bon,
oui.
Ils peuvent se venger contre toute la société pour se livrer à des activités qui sont auxquels ils se livrent aujourd'hui avec la taxe de maison, de particulier, le vandalisme.
Etc. Voilà.
Donc, ce n'est pas très bien.
Bien. Adela Kwanzaka, sociologue, merci et bon début de semaine.
Merci à vous d'autant.